1er novembre, on fête la fête de tous les saints, la Toussaint. Au 2 novembre, on se commémore les personnes qui les ont précédées et qui sont dans l'attente de rentrer dans la gloire de Dieu. La commémoration de tous les morts, toutes les personnes qui sont précédées, marquées du signe de la foi, comme on dit, voilà, et qui rentrent dans la paix. Tout le mois, eh bien, on vit dans cette communion de cette humanité tout entière qui n'est plus visible à nos yeux de chair, mais qui est bien existante d'une autre manière. J'aimerais rappeler une chose très importante, cet admirable, adorable mystère de la communion des saints. Vous savez, on est membres les uns des autres, on est reliés les uns aux autres à travers et au-delà de la mort corporelle. Il y a un mouvement d'amour que le Christ crée en lui-même et à travers l'Église qui entraîne l'humanité entière vers le Père pour toutes celles et ceux qui veulent bien rentrer dans ce mouvement d'amour. Il y a ceux qui refusent, et ça c'est pour l'éternité ce refus, mais toutes celles et ceux qui veulent rentrer dans ce mouvement d'amour eh bien, sont entraînés par le Christ et par l'Église vers le Père dans la louange et l'adoration. On forme une unité profonde dans cette Église, à la fois l'Église de la terre qu'on appelle l'Église militante, c'est-à-dire nous, on est les miles, c'est les soldats, on est les soldats. Ça se remarque parce qu'on transpire quand on avance, quand on travaille et quand on essaye d'être fidèle jour après jour comme ça. Ceux qui transpirent et qui suent sur cette terre encore, quelqu'un disait très justement, on reconnaît le fait que Dieu travaille quand nous on transpire. C'est Dieu qui travaille et nous on transpire. Voilà, c'est ça. Dieu travaille dans l'éclair, nous transforme. Et ben, c'est clair que pour nous, ça fait un petit peu de transpiration. C'est-à-dire qu'il nous décape, il doit enlever en nous le vieil homme. Et le vieil homme, il n'a pas tellement envie de mourir, alors il s'accroche. Voilà. Et puis, il y a l'Église de celles et ceux qui contemplent la gloire de Dieu. C'est l'Église du ciel, l'Église qu'on appelle triomphante. Cette Église des saints qui, avec les anges, voient la face de Dieu et l'adore jour et nuit. Il y a l'Église qu'on appelle souffrante, le mot est peut-être un peu douloureux comme on l'entend comme ça, mais c'est tous nos frères et sœurs qui attendent, dans l'antichambre du paradis, la joie de pouvoir voir Dieu face à face, mais qui ont senti au moment de leur mort qu'il fallait encore une certaine purification. C'est ce qu'on appelle le purgatoire, la purification. Voilà, c'est le moment où on va être purifié. C'est tout ce qui nous empêche encore de voir Dieu en face. Et ce qui nous empêche de voir Dieu en face, c'est tout ce qu'on veut faire par nous-mêmes. Tout ce qu'on fait à la force du poignet. Tout ce qu'on n'a pas laissé Dieu travailler dans nos vies. Voilà. Ça, tout ce qu'on a fait à la force du poignet, ça, la doctrine de Thérèse de l'Enfant Jésus sur le purgatoire est extraordinaire. Elle se fonde bibliquement sur la parole du Christ au bon larron, c'est-à-dire la crapule qui se trouve à côté de lui et qui avait tué et fait tant de crimes. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Thérèse dit, mais comment ça se fait que ça aille si vite? C'est le purgatoire, c'est pour essayer de purifier les fautes qu'on a fait dans le passé. Il devait en prendre pour plusieurs années quand même. Il dit, mais pourquoi? Bien parce que ce truand a eu cette parole extraordinaire quand on l'a traduit comme ça. Il y a Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Mais ce que Thérèse comprend dans cette parole, c'est que ce truand dit à Jésus, mais sans toi, je ne peux pas être sauvé. J'ai besoin de toi comme sauveur. Sans toi, c'est fini. Ma vie est terminée. Alors Jésus, il craque quand on lui dit ça, vous savez. Il te dit, Seigneur, par moi, je suis incapable. De mes propres forces, je suis incapable d'aller au ciel tout seul. Incapable de faire quoi que ce soit de bien par moi-même. Alors Jésus dit, ben voilà, tu auras ma grâce. Ma grâce aujourd'hui pour accomplir le bien et ma grâce pour rentrer au ciel. C'est-à-dire la puissance de ma miséricorde va se manifester au cœur de ta misère et va te saisir aujourd'hui au paradis avec moi. Et Bossuet, le grand auteur, évêque, 18e siècle, disait « Aujourd'hui, quelle promptitude, au paradis, quelle délice, avec lui, quelle compagnie. Quelle promptitude, quelle délice et quelle compagnie. Voilà la promesse qui est faite à celui qui veut compter sur Dieu. » Comment cette communion des saints s'articule, et puis ensuite, quelle relation avoir avec celles et ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, comme nous fait dire l'Église. D'abord, il faut savoir une chose fondamentale, c'est que tout le mystère de notre foi, tout le mystère de ce que nous vivons les uns avec les autres est inscrit quelque part dans le mystère de la Trinité. Toute l'œuvre créatrice n'est qu'un reflet de cette Trinité d'amour et que finalement tout le mystère de la vie ne se comprend que dans la contemplation de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu qui nous transfigure complètement. Et au baptême, nous vivons de cette vie trinitaire, nous sommes introduits dans ce mystère de la Trinité, nous rentrons dans le mystère de la Trinité. Petite fille arabe qui allait être baptisée, était kabyle, algérienne, et voilà que l'évêque qui devait la baptiser lui dit « C'est quoi la Trinité ?» Oh, dit la fille, alors elle se gratte la tête comme ça. L'évêque se tourne vers le prêtre qui avait préparé la fille au baptême en disant, c'est, avec un regard qui voulait dire, c'est pas très glorieux votre préparation, parce que une des grandes différences, il y en a plusieurs, mais entre la foi musulmane et la foi chrétienne, les musulmans veulent bien croire en un Dieu unique, mais jamais la Trinité. C'est pour ça qu'on ne peut pas saisir le mystère de l'amour. Si Dieu est amour, alors la Trinité est une exigence, on ne peut pas s'aimer tout seul en soi-même. Il faut que l'amour se donne, et l'amour se donne que dans un échange interpersonnel. C'est ça la Trinité. Voilà. L'évêque lui dit, mais Dieu, alors, dit Dieu, Dieu aujourd'hui je l'appelle Allah, mais après mon baptême je l'appellerai Papa. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'après mon baptême je serai kiff-kiff avec Jésus, puis comme Jésus il appelle son Dieu Papa, mais moi j'appellerai Papa aussi. Et qu'est-ce qui va se passer à ton baptême? Eh bien je vais recevoir l'esprit de la famille des enfants du bon Dieu. Ah bon, et puis qu'est-ce qui va se passer encore? Ben, je vais rentrer dans la grande famille de l'Esprit Saint, c'est l'Église. Ah, dit l'évêque, alors c'est bon, la Trinité est là, le mystère de l'Église est là, tout est saisi dans cela. Je vais appeler Dieu Abba Père, parce que je suis kiff-kiff avec Jésus, et que je reçois l'Esprit Saint qui me fait rentrer dans cette communion d'amour, et qui en même temps me fait rentrer dans la communion du corps du Christ qu'est l'Église. Il y a cette unité profonde entre le Christ tête et le Christ corps qui se répand. Bossuet toujours lui disait, l'Église c'est Jésus-Christ répandu sur la terre et communiqué. La tête du corps qui est le Christ se répand par les membres que nous sommes sur toute la terre, hein, comme un magnifique réseau de charité qui se répand partout, c'est ce que Dieu veut, c'est le plan d'amour de Dieu, voilà. Et puis englobe toute la terre et saisit toute la terre. Le Christ saisit la terre et répand sa vie par l'Église dont nous sommes les membres. Voilà. Et donc le mystère de la communion, c'est ça, voyez-vous, il est d'abord dans la Trinité. D'abord au sein même de la Trinité. Regardez, l'amour fou du Père. D'ailleurs, les mots mêmes qu'on utilise, hein, sont des mots de relation. Le Père, on ne dit pas un homme, c'est un Père. Si on le définit comme un Père, c'est en référence à un fils, à quelqu'un. Autrement dit, c'est un homme, c'est quelqu'un. Voilà. Il est fils, c'est en référence immédiate à une relation d'engendrement qui est celui du Père, ou de la Mère, mais il est fils de quelqu'un. Il n'est pas fils comme ça abstraitement. Au cœur même de cette relation entre le Père et le Fils, où le Père de toute éternité engendre le Fils et le Fils aime le Père de toute éternité, il y a l'amour même du Père et du Fils qui est quelqu'un qui est l'Esprit Saint. Et voyez-vous, au cœur de la Trinité, il n'y a qu'une extraordinaire communication de l'amour qui fait que de trois, ils sont un. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais on a tout dit quelque part. Dieu est amour, et s'il est amour, il est don. Il ne peut être que don. L'amour est le don de soi. Et puis à deux, ça peut être encore égoïste. Trois, c'est nécessaire et suffisant pour qu'il y ait une extraordinaire sortie de soi et une communion tout autant adorable. Dieu qui crée tout à l'image de son amour trinitaire, à tel point que, vous savez, il y a un scientifique, un savant qui s'appelle James Clerk Maxwell, qui a découvert la théorie de l'électromagnétisme. Einstein disait que c'est la plus grande découverte depuis la pomme de Newton. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la théorie, parce que je serais absolument incapable de vous le dire. Mais quand on a demandé à ce scientifique à la fin du siècle passé comment il avait fait pour découvrir la théorie de l'électromagnétisme, il a dit « j'ai contemplé la Trinité ». Vous imaginez, à l'époque où tout scientifique qui se respectait devait être athée et le professer haut et fort à la suite du complexe de Galilée, ça fait un peu drôle, et une certaine jalousie aussi. Et on lui dit, mais comment c'est possible? Alors il a dit, voyez-vous, j'ai compris que la Trinité n'était pas trois personnes, qui étaient l'une à côté de l'autre, qui se tapaient sur l'épaule en disant, je t'aime bien, qu'il y avait un tel mystère d'amour dans une profondeur tellement grande entre le Père et le Fils et le Père et l'Esprit Saint, que de trois, ils ne faisaient qu'un. Et il ne pouvait pas ne pas y avoir un mystérieux reflet de cette relation extraordinaire dans la création. Et je disais ça un jour devant des chefs d'entreprise en France. Il y avait parmi les personnes qui participaient à la conférence le directeur du port du Havre qui était là, qui avait fait l'école des mines, donc une école scientifique et comme ça. À la fin, il dit, vous savez, quand moi j'ai appris ça pendant mes études, j'ai dit, tiens, la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell, ce serait une belle explication pour la Trinité. Alors il a fait le chemin inverse de la théorie de Maxwell, il a dit, tiens, ce serait comme une image de ce que pourrait être le mystère de la relation dans la Trinité. Donc Dieu crée en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est créateur, mais il crée par le Fils, pour le Fils, dans la puissance de l'Esprit-Saint. Toute l'œuvre du salut, toute l'œuvre de la création et de la rédemption est trinitaire. Elle est faite dans l'amour. Il n'y a qu'une œuvre que Dieu accomplit en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est la création et la rédemption. Alors que se passe-t-il entre la création et la rédemption? Eh bien, c'est le péché originel, c'est la rupture, c'est le refus de dépendre, c'est la désunion, c'est la brisure totale. Voyez-vous, le péché originel rompt la relation de l'homme avec Dieu, rompt l'unité, donc l'unité que Dieu voulait avec sa créature, l'unité d'amour, qu'il voulait ces créatures. Le péché originel rompt l'unité intérieure de l'homme. Les passions luttent contre la raison essaye de gouverner ses passions et fait ce qu'elle peut, pas beaucoup des fois, mais on est profondément blessé en nous-mêmes, dans l'unité. Ça rompt l'unité dans le couple. Adam et Ève qui commencent à s'engueuler. Mais c'est la femme que tu m'as donnée, mais c'est lui, c'est le serpent. Enfin voilà, on commence à. Début de la désunion dans les familles, elle commence là. Et puis début de la guerre entre les hommes. Voilà que ce pauvre Caïn tue son frère Abel. Comme ça, et c'est la guerre. Désunion aussi avec la création tout entière. La création va souffrir de cette blessure de la rupture avec Dieu. Mystère d'iniquité, mystère de désunion, de brisure de l'unité profonde. Ce que Dieu veut venir faire dans le Christ, c'est tout récapituler, tout rassembler en Jésus. Saint Paul nous parle de ça avec beaucoup de ferveur, de ce mystère de la récapitulation. Dieu a enfermé en Adam la désobéissance. Par la désobéissance d'Adam, toute l'humanité a été entraînée dans la chute et l'univers entier. Et dans le Christ, Dieu veut tout récapituler pour que par le Christ et par l'Église, tout remonte vers lui dans la louange et l'adoration. On voit bien que ce que Dieu veut restaurer, c'est la communion avec l'homme. Il veut nous remettre en communion avec lui. Remettre tous les hommes en communion les uns avec les autres. Cet instrument extraordinaire de communion, c'est l'Église. L'Église se définit comme le lieu de cette communion. Le Concile Vatican II dira admirablement, elle est comme un sacrement. Un sacrement, c'est un signe et un moyen efficace, un moyen qui produit son effet, de l'union du genre humain avec Dieu. C'est-à-dire que par le Christ, tête et corps, l'humanité entière est réunie à Dieu, rentre dans la communion du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Et c'est ça que le baptême produit en nous. Vous imaginez, c'est extraordinaire. On est introduit dans le mystère de la communion avec le Père. Et puis, elle est en même temps le signe et le moyen de l'unité de tout le genre humain. Tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a de merveilleux dans le monde, tout ce qu'il y a d'amour dans le monde, vécu partout, est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint seul qui est capable de produire un fruit d'amour dans le monde. Quand on voit couler de l'eau à un robinet, on se dit qu'il y a une source quelque part. On demande un jour à des petits parisiens d'où vient le lait et ils répondaient du berlingot. Bon, leur expérience pratique, c'était uniquement le berlingot que j'allais acheter au magasin, au supermarché. Et du coup, le lait vient du berlingot. Pour nous qui avons vu des vaches, ceux qui n'ont pas vu, il y en a trois là-devant qui sont très belles, eh bien, voilà, ils ne donnent pas beaucoup de lait, ça c'est vrai. Mais le lait vient quand même de la vache. Hein, voilà, donc, j'allais dire, tout amour vient de la source unique de l'amour, comme tout être vient de la source unique de l'être qui est Dieu en personne. Il y a un mystère extraordinaire de cause à effet. Dès qu'on voit fleurir l'amour quelque part, dès qu'on voit fleurir la vie quelque part, dès qu'on voit fleurir l'être quelque part, on sait qu'il y a une source derrière qui a donné vie, être et amour à cet univers. Et ça, c'est Dieu. Le mystère de l'unité, de la communion que Dieu veut recréer, eh bien, passe par le Christ dans son corps qu'est l'Église. Et finalement, le catéchisme nous dit la fin ultime de toute cette œuvre de Dieu, de toute cette action de Dieu dans le monde, ce qu'on appelle l'économie divine, eh bien, c'est l'entrée de toutes les créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. L'entrée de toutes les créatures dans l'unité parfaite de la Trinité. Cette unité qui avait été brisée par le péché originel et par le péché de l'ange avant le péché originel, bien sûr, et restaurée par le Christ. Et l'Église devient donc le lieu d'une communion d'amour qui va se manifester de la manière suivante. Elle va être le facteur d'unité de cette communion d'amour. Le premier facteur, c'est l'Esprit Saint qui est donné. On voit bien que toute l'œuvre du Christ, chez Saint Jean, c'est très frappant, toute l'attente du Christ, c'est de donner l'Esprit Saint. Ah, il n'est pas mort qu'il souffle l'Esprit Saint. Il donne le souffle de l'Esprit Saint pour que la petite église naissante signifiée par Marie et Jean et les saintes femmes au pied de la croix puisse recevoir déjà ce qui va être le cœur même, l'âme même de l'Église, ce qui va animer l'Église, qui est l'Esprit Saint, qui est charité, qui est l'amour du Père et du Fils. Ce qui va être le cœur de l'unité de l'Église, c'est l'amour incréé qui est l'Esprit Saint. L'amour créé, c'est-à-dire toute la charité que nous recevons par l'Esprit Saint dans nos cœurs, et qui nous fait membres les uns des autres, qui nous fait lien les uns avec les autres, qui nous unit les uns avec les autres, qui fait que l'autre n'est pas indifférent pour moi. Qui est mon prochain ? Qui est mon prochain, dira le Christ. Et Jésus raconte cette extraordinaire histoire du Samaritain. Voilà, il y a un prêtre, il y a un lévite qui sont là, qui descendent de Jérusalem à Jéricho, de la ville des plaisirs à la cité sainte. Le prêtre et le lévite, c'est-à-dire la loi et les sacrifices de l'ancienne alliance, est incapable de relever l'homme blessé qui était là. Et c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, le Samaritain, qui vient relever l'homme blessé. C'est le Christ qui le conduit dans l'auberge qu'est l'église. Et dans cette auberge, il donne tout ce qu'il faut. Et même encore plus, s'il faut, c'est les indulgences, pour que cet homme soit guéri et vive du bonheur. Il y a une autre interprétation, bien sûr, c'est une interprétation directe, la première qui vient à l'esprit, c'est dire, mais qui est mon prochain ? C'est celui dont tu te fais proche. c'est celui qui est tout près de toi. On avait un prêtre de Sibérie. Je suis parti en Sibérie, un Américain. Il me dit, alors, ils comprennent rien là-bas parce que je veux devenir russe de Sibérie. Mais tous les Russes veulent devenir Américains. Vous êtes le seul Américain à vouloir devenir russe de Sibérie. À moins 50, un endroit où sont morts plus de 2 millions de personnes, dans les goulags et tout ça. Alors il disait, pendant 3 ans, je parlais pas de russe. J'avais qu'une seule chose à faire, c'est d'aimer les gens. Leur sourire et de les regarder. Alors, vous savez, souvent quand on parle de l'amour, on déblaye les gens qui sont devant nous, on dit « Où est celui que je dois aimer? Mon prochain que je dois aimer ?» Alors, on élimine un peu, et il dit « Mais voilà, on s'appuie sur celui qui est devant nous pour lui dire « Mais où est le prochain que je dois aimer ?» Et c'est celui sur qui tu t'appuies, là, qui est en train d'écraser, de ne pas voir, de ne pas vouloir voir. Il est devant toi, le prochain que tu dois aimer. Alors, la charité va venir dans notre cœur pour réaliser ce mystère de l'union et de la communion. Cette charité dans l'Église, cette communion dans l'Église, va se faire de deux manières, à la fois par les sacrements. C'est les sacrements qui nous réunissent les uns aux autres, et notamment le sacrement de l'Eucharistie. Quand on va recevoir le corps du Christ, la communion au corps du Christ. Et saint Augustin, il disait, quand tu vas recevoir le corps du Christ et que tu dis « Amen », en recevant Jésus dans tes mains, sous l'humble apparence du pain, eh bien tu dis non seulement « Amen », à la réalité de ce que tu reçois, c'est-à-dire que tu affirmes, amen, c'est un mot fort en hébreu qui veut dire le roc, le rocher, ça tient, c'est bien vrai que c'est celui, tu m'as dit le corps du Christ au prêtre, eh bien je te réponds, amen, oui, je sais que c'est le Christ qui est là en personne dans mes mains, le sauveur et le rédempteur du genre humain, il est là dans mes mains. Saint Cyril de Jérusalem qui disait, qui faisait ses catéchèses, il disait, écoutez, si on vous mettait des pépites d'or dans les mains, hein, des diamants, des saphirs, des choses comme ça, vous regarderez en disant « Ah, oh, aïe !» et vous attendez de ne pas en perdre le moindre bout. Et là, vous avez le créateur de tout l'or, de tous les saphirs, de tous les diamants du monde, et vous ne faites pas attention à lui qui est là dans vos mains. Regardez-le, adorez-le, aimez-le. Et puis tu dis « Amen » non seulement à la réalité que c'est le Christ qui est là présent dans tes mains, mais tu dis aussi « Amen » à ce que tu deviens en communiant au corps du Christ. Tu deviens toi-même Jésus. Et tu dis aussi « Amen » à ce que tu es appelé à construire par la charité que tu vas recevoir avec l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps du Christ va dilater ton cœur, tu dis amen au corps du Christ, qui est l'Église tout entière. Tu deviens membre. Et les pères de l'Église prenaient une très belle image en disant, des grains de blé, du froment répandu un peu partout, on casse tous ces grains, on les moue. Et puis ensuite, on en fait de la farine, et on met de l'eau dedans. Et avec cette eau, on met cuire, et voilà que ça fait une hostie. Et ben, le peuple de Dieu, c'est ça. Le peuple de Dieu est dispersé. Et voilà que de cette dispersion, Dieu va le rassembler. Alors il faut le moudre pour ça, c'est vrai. Ce fait de moudre des grains, c'est tous les angles un petit peu rugueux de notre personnalité qui doivent être cassés, comme ça. Hein. Et, vous savez, ça arrive, le caractère un peu bizarre, les paroles blessantes, les gestes brusques, toutes ces choses-là, et ta, 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 tout ça à casser. Parce que si on met que des grains de blé tout bruts, les uns avec les autres, vous pouvez mettre tout l'eau que vous voulez dedans, ils vont peut-être germer, peut-être pousser, mais en tant qu'individu séparé, et pas en tant qu'unité, impossible. Donc il faut vraiment le moudre, broyer complètement, farine. Ça s'appelle la mort à soi-même. Ça s'appelle la mort à notre égoïsme. La mort à notre volonté propre. Voilà, ça passe par là, qu'est-ce que vous voulez. Il faut être moulu pour pouvoir être bon pain. Une fois qu'on est moulu comme un bon pain, comme ça, qu'on est moulu en farine, ben, on peut mettre l'eau. L'eau, ben, c'est cette grâce de l'Esprit-Saint. De son côté couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit-Saint qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Sans l'Esprit-Saint, il n'y a pas d'unité possible. L'Esprit-Saint s'ouvre sur eux et ensuite on est mis au four. Eh bien, c'est tout le travail de la grâce qui va agir en nous. La charité qui va travailler nos cœurs. Et voilà qu'on va devenir unité d'hostie, hein, dans le corps qu'est l'Église. C'est la grâce sacramentelle de la communion qui essentiellement va nous réunir en un seul corps qu'est l'Église, qui nous fait membres les uns des autres. Et à tel point que quand on va communier, voyez-vous, ce n'est pas un acte individuel. Quand on va communier, on communie au corps du Christ, on communie les uns avec les autres. C'est pour ça que les pères de l'Église et nos frères orthodoxes en particulier ont dit, mais on ne peut pas séparer le sacrement de l'autel, ce qu'on reçoit à l'autel, et le sacrement du frère. Il disait, mais tu veux que sur l'autel les nappes soient de soie brodée, tout ça, c'est très joli, que ton calice soit en or pur, tu veux que... Et puis le Christ qui est nu devant la porte, tu t'en occupes pas. Le Christ qui est pauvre devant la porte, tu t'en occupes pas. Tu vas t'occuper et du Christ sur l'autel et du Christ devant la porte. Voilà, il y a cette communion inséparable du Christ au Saint-Sacrement. Par le fait qu'on communie au corps du Christ, on communie au souci du Christ. Et quel est le souci du Christ? C'est que toutes les âmes soient sauvées, tous les hommes soient sauvés. Cette charité qui brûle le cœur du Christ, qui le pousse à aller jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour nous donner la vie, pour nous sauver. C'est ça le mystère de la communion, voyez-vous. En communiant au corps du Christ, on communie au souci du Christ pour tous les hommes. que pas un seul que le Père lui a donné ne se perde, pas un seul. Et ça, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Que Thérèse de l'Enfant Jésus vit le 25 décembre 1886, sa grâce de Noël, dit-elle, cette grâce qu'il a fait passer de l'enfance, de la gaminerie, pour dire comme ça, à l'âge adulte, c'est justement ça, la grâce qu'elle vivra. C'est qu'elle dira, c'est l'histoire, elle avait mis ses petits souliers, elle avait 13 ans, elle avait mis ses petits souliers devant la cheminée pour que son papa mette un petit cadeau dedans. Son papa, qui était veuf, qui avait toutes ses filles à la maison, qui était fatigué, qui devait travailler et tout, voit ses petits souliers et elle dit « Oh non, à cet âge encore, c'est la dernière année en tout cas. » Et Thérèse, qui entend cette parole, a son cœur transpercé. Elle pleure, elle avait pleurniché déjà avant, mais là, ça n'a pas amélioré la situation. Et voilà que là, elle monte 4 à 4 les escaliers, elle arrive en haut, et là, c'est le déluge de larmes. Et sa sœur lui dit « Mais Céline, on ne peut pas faire ça, pense à la peine que tu fais à papa. » Pense à la peine que tu fais à papa de pleurer le soir de Noël comme ça. Alors Thérèse dit « Ah, papa !» Et elle pense plus à elle, son petite souffrance, ses petits souliers, son petit cadeau. Elle pense à l'autre, papa. Et alors, il se produit une chose extraordinaire. J'ai essuyé mes larmes, j'ai retenu les battements de mon cœur, j'ai descendu 4 à 4 escaliers, j'ai sauté au cou de papa, j'ai fait le plus beau sourire que je pouvais. Et je lui dis merci. J'ai senti en un instant la charité rentrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. J'ai senti le désir ardent de travailler au salut des âmes. J'ai senti le grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais jamais senti auparavant. Je brûlais du désir d'arracher les âmes aux flammes éternelles. Elle attribue cette grâce de la charité en acte du salut des âmes à la communion de la messe de minuit. Cette même nuit, vous voyez, les œuvres de Dieu, là, on rentre dans la communion des saints. Cette même nuit, s'est passé deux choses aussi bouleversante. Claudel rentrait à Notre-Dame de Paris, athée, mécréant en tout cas. Et voilà que devant le deuxième ou troisième pilier à droite, devant l'antique statue de la Vierge, en face de la sacristie, paf, ça y était, il ressort catholique romain. La grâce de la conversion de Claudel qui était là. Cette même nuit, Wagner vit une expérience spirituelle, ce qui fera dire à Nietzsche, après, qui écrivait à Wagner, dira « Quoi, toi aussi tu t'es agenouillé, toi aussi tu t'es prosterné devant Dieu, toi aussi tu es un lâche, tu as rejeté la dignité humaine en te prosternant devant Dieu. » Trois personnes, cette même nuit de Noël, voyez-vous la communion des saints, par le oui de Thérèse, par le lac de charité de Thérèse, Claudel se convertit, Wagner, et puis tous les autres, c'est une cascade de grâce qui ont dû couler sur le monde, par cette sortie d'elle-même, cette charité plus forte que ses propres forces, c'est-à-dire la grâce de l'Esprit-Saint qui vient la transformer. Thérèse dira, sans ça, j'aurais jamais pu rien faire. Alors elle voudra quand même la preuve aussi de savoir si elle peut travailler à la communion des saints. Et alors c'est le fameux miracle de Pranzini, vous savez, ce truand notoire dont tous les journaux parlaient, athée qui refusait toute confession, tout prêtre, dès qu'il y avait un prêtre à distance, il hurlait. Et puis Thérèse a dit, je vais demander la conversion de Pranzini. 31 août 1987, Pranzini allait se faire décapiter aux petites lueurs du matin. Et voilà que Thérèse prie pour lui. Il arrive, il refuse le prêtre, comme ça. On met la tête sur l'échafaud. Et à ce moment-là, il fait venir le prêtre et par trois fois, il embrasse le crucifix. Et Thérèse, à ce moment-là, elle a la preuve certaine de la puissance de la communion des saints, de la puissance de son offrande, de la puissance de sa prière, de la puissance de tout cela. Et là, elle peut y aller à fond. Elle découvre le mystère de la communion des saints. Concrètement, réellement, pratiquement, Dieu lui montre un petit signe. Alors, il n'est pas obligé de tout nous montrer, on sait que ça existe dans la foi. Voilà. Cette unité de l'Église est formée par cette communion sacramentelle, elle est formée également par la communion à la vérité. L'Église est une, et le corps du Christ est unifié, rentre dans cette unité foncière que Dieu veut en communion avec lui, à la fois par cette charité de l'Esprit-Saint qui est donnée, qui est communiquée par les sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie, aussi par la vérité qui est enseignée par l'Église. C'est cette grâce de la vérité et l'enseignement des papes, c'est à travers le Saint-Père, que l'Église nous enseigne la vérité qui nous rend et qui nous unifie les uns aux autres. Il y a ces deux aspects de l'unité, à la fois l'unité sacramentelle dans la charité par la puissance de l'Esprit-Saint, communiquée à travers les sacrements, et puis l'unité qui est effectuée par l'obéissance commune à une parole, qui est enseignée par l'Église. L'obéissance commune à une parole qui est enseignée par l'Église. Et la rébellion contre l'Église, la rébellion contre le pape, le refus d'obéir, brise profondément le mystère de l'unité de l'Église. Brise profondément cette mystérieuse circulation de l'amour de Dieu dans son corps, qu'elle existe dans l'humanité entière. Et vous, c'est comme si vous avez un tuyau d'arrosage avec tous les trous qui sont bouchés, ou le tuyau qui est tellement tordu qu'il n'y a plus d'eau qui passe. Dieu donne à profusion la grâce, mais encore faut-il que tous les canaux soient débouchés et que tous les canaux soient orientés du bon côté. Et bien, l'orientation du bon côté, ce qu'on appelle la grâce d'unité, la grâce d'orientation, et bien, c'est la vérité enseignée par l'Église qui nous la donne. Et donc, il y a un mystère d'unité qui se communique à travers la parole de Dieu. Un jour, j'étais à une retraite avec des jeunes, puis il y avait un jeune couple qui était là, puis il critiquait, enfin, il posait plein de questions sur le pape, l'unité, enfin, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, puis voilà, puis il dit, oh, ben, Dieu a voulu que l'Église soit une. Or, qu'est-ce que ça veut dire être un? Puis moi, j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire être un? Puis il y avait un papa qui avait sa petite fille de 2 ans dans ses bras, puis la petite fille, elle fait comme ça, pousse. Alors, moi, j'ai vu le pouce, j'ai dit, bah, voyez, bon, Dieu, il a fait comme la petite fille, pour dire un. Il a mis pouce. C'est un type en blanc au milieu de l'église, successeur de Pierre. Et puis regardez vers le pouce, et là vous serez unifiés. Mais cette unité, c'est ça. Cette unité, c'est qu'il y a un signe visible d'unité. Dieu sait tellement notre faiblesse, notre incapacité, notre pauvreté, notre errement, qu'il a fallu un signe visible d'unité vers lequel tout converge. C'est bien sûr le Christ, mais à travers son vicaire, qui est le Saint-Père. Et un peu à la manière du moyeu d'une roue, hein, où tous les rayons vont converger là. Et plus on se rapproche du centre, plus on se rapproche dans l'obéissance filiale du centre de vie, de charité de l'Église, plus on est proche les uns des autres. Ce centre de charité de l'Église, c'est bien sûr la croix, l'Eucharistie, qui nous rend présent au mystère de la croix, et le Saint-Père qui porte la croix du monde, quelque part, avec le Christ, pour enseigner l'Église dans le monde entier. Voilà. Et puis bien sûr Marie, parce qu'il n'y a pas d'unité sans Marie. Hein. Marie est bien sûr au cœur de ce mystère de l'unité de l'Église. Saint Jean le montre très justement. Dans le chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean, on a l'épisode où les soldats se partagent les habits du Christ, sauf la tunique. Tunique sans couture, tunique unique dont était revêtu le Christ. Et cette tunique, on ne veut pas la partager, on la tire au sort. Ce passage est extrêmement important pour Saint Jean. L'Église a toujours compris ce passage comme étant l'unité de l'Église qui est préservée. Le Christ vient en portant cette tunique, mais cette tunique c'est sa propre personne, refaire l'unité de l'humanité avec son Père. Et cette unité de l'humanité, elle se fait dans l'Église qu'il porte sur lui et qu'il confie. Elle ne peut pas être déchirée. Déchirée, le mot grec c'est schisme. Déchirée, le schisme. À faire division dans l'Église, faire schisme dans l'Église. Voilà, on en a eu un il n'y a pas très longtemps, c'était avec Mgr Lefebvre, cette division comme ça, qui est une grande blessure, une grande souffrance. On en a eu d'autres dans les siècles précédents, au XIe siècle, en 1054, avec l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe byzantine, au XVIIe siècle, avec nos frères et sœurs issus de la Réforme, voilà, et puis de l'Angleterre, l'anglicanisme et tout ça, voilà, des brisures profondes au siècle passé, après le Concile Vatican I, avec nos frères vieux catholiques, comme on les appelle, ou catholiques chrétiens, voilà, des brisures profondes qui sont produites là. Dieu veut pas ça, il veut que la tunique reste unique. Elle reste non déchirée. Et quel est le moyen par lequel la tunique va rester unique? Eh bien, c'est le petit paragraphe suivant. Saint Jean fait le lien entre « Donc, les soldats ne déchirèrent pas la tunique, ils la tirèrent au sort. Or, près de la croix se tenait Marie, la mère de Jésus, et le disciple qu'il aimait. » Et ce « or » explique la manière dont la tunique va pouvoir rester unie. C'est par le geste que Jésus fait de donner sa mère au disciple qu'il aime, c'est-à-dire à chacune et chacun d'entre nous. L'explication ou la condition sans laquelle la tunique ne pourra pas tenir ensemble, eh bien c'est le don de Marie. En accueillant Marie, elle va être le garant de l'unité des chrétiens. Elle est maintenant au cœur d'une division profonde des chrétiens, c'est vrai. Mais elle est le garant, et Saint Jean est très clair, quand on lit le texte de manière précise, on se rend compte que la condition d'unité de l'Église passe par l'accueil de Marie, par le disciple qu'il aime. C'est impossible autrement. Et après avoir donné Marie, Jésus dit « désormais », Saint Jean reprend cette phrase, désormais, ça veut dire que c'est la conséquence, on peut aller plus loin maintenant que Marie est donnée. C'est central ce don de Marie. Voyant que tout était accompli, or c'est pour ça que le Christ était venu. Le mot grec utilisé c'est tout étant achevé, mis jusqu'au bout. Et c'est la parole que le Christ avait dit quelques chapitres auparavant. Jésus ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. La fin pour Saint Jean c'est le don de Marie aux disciples qu'il aime. Ce don de Marie va permettre... Le don ultime qui va être justement le secret de l'unité, c'est l'Esprit Saint. Si Marie n'était pas donnée à Jean, et si Jean n'avait pas dit sur le champ, il l'accueillit chez lui, tout de suite il l'accueillit chez lui, à cet instant il l'accueillit chez lui, le mystère de l'unité n'aurait pas pu s'accomplir. suspendue à ce chapitre, ce petit passage central qui est le don de Marie. Marie est au cœur du mystère de l'unité de l'Église. Par Marie, on est aussi au cœur de la communion des saints, voyez-vous. Si c'est Marie qui va être le garant de l'unité, c'est par elle aussi que vont circuler toutes les grâces dans le monde. Hein ? C'est par elle que tout va être répandu sur le monde. Marie, qui est le signe de l'Église, Jésus l'appelle femme. Ce n'est pas une parole de dénigrement ou de mépris. Bien au contraire, la femme, dans la tradition biblique, signifie Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la ville où tous les enfants dispersés se réunissent et se rassemblent. Ils se rassemblent en Jérusalem pour aller adorer au temple. Bien, au pied de la croix, on a Jérusalem, femme, Marie, et le temple qui est Jésus-Christ. Jésus, appelant Marie femme, veut montrer qu'elle est la nouvelle Jérusalem en qui tous les enfants du Père dispersés vont se réunir pour adorer dans le temple, le nouveau temple, qui est le Christ en personne. Les nouveaux adorateurs, les adorateurs que mon Père cherche, adoreront en esprit et en vérité. En esprit, c'est dans la puissance de l'Esprit Saint que le Christ donne en soufflant sur eux. Et en vérité, c'est le Christ qui est la vérité, le chemin et la vie. La nouvelle adoration, elle est là. Donc on est au cœur du mystère de l'unité de l'Église. La communion des saints, voyez-vous, elle est fondamentale. L'Église est communion des saints. L'Église est communion. Elle ne peut pas être autre chose que communion des saints. La communion des saints définit l'Église en tant que mue par l'Esprit Saint. Elle est rassemblée en Marie par le Christ autour du Père, dans ce mystère trinitaire. Donc le lien essentiel, c'est un lien de charité. Cette communion des saints franchit toutes les barrières des mondes. Il n'y a plus de barrières entre le monde visible et invisible. On est membres les uns des autres, on est dans le bien comme dans le mal d'ailleurs, voyez-vous. Lorsqu'une âme s'élève, toute l'humanité s'élève avec. Lorsqu'une âme s'abaisse, toute l'humanité s'abaisse avec. Oui, on est attachés les uns aux autres, réellement, mystérieusement et invisiblement, mais bien réellement, qui fait que dès qu'il y a un mouvement ascensionnel d'une âme, tout monte avec, vers le Père. Et dès qu'il y a un mouvement qui descend, bien tout baisse avec. Il y avait des scientifiques, principe de Lorentz, qui disaient que lorsqu'un papillon battait des ailes quelque part dans la forêt amazonienne, un cyclone pouvait se déclencher en Californie. Papillon, zut, cyclone plus loin. C'est incroyable. Un moindre mouvement. Déjà, en physique, on peut arriver à une conclusion comme celle-ci, qu'un petit mouvement peut avoir des effets extraordinaires. Bien, un petit mouvement d'amour pour des effets extraordinaires. Ça, c'est ce que nous dit. Et Thérèse dit, ramasser un fil par terre avec amour sauve les âmes. Il y a quelque chose de complètement disproportionné entre le petit geste que l'on fait et l'effet que ça produit. Ce qui compte, Saint Jean de la Croix le dit très justement, ce n'est pas la quantité de choses que l'on va faire, ce n'est pas l'importance des choses qui vont être faites, c'est le poids d'amour qu'on met dans les choses que l'on fait. Voilà le mystère de l'unité, de l'humanité et du genre humain dans la Trinité. C'est cette puissance d'amour qui est vécue et qui est donnée à travers ce que l'on fait. Dans la communion des saints, on est membres les uns des autres. Ceux du ciel, les saints et les saintes, nous donnent ça. On se dit, mais pourquoi prier les saints? Mais parce qu'on est, on est collés les uns aux autres, qu'est-ce que vous voulez? On partage une même origine, un même destin, on est dans la même famille, on est là, dans la même église, dans le même bateau, qui n'est pas une galère, mais qui est l'arche du salut, l'arche du salut. Cette arche du salut qu'est l'église, qui a ses pieds dans la terre et qui a son mât dans le ciel, comme ça, c'est une même église. Il n'y a pas trois églises, celle du ciel triomphante, celle souffrante du purgatoire et celle de la terre. C'est la même église qui passe. Cardinal Jodet prenait l'image d'une montagne. Alors elle a ses pieds dans la plaine, au milieu on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, le brouillard, d'un coup il y a la pointe cachée sous la neige et les nuages, on ne la voit pas. Mais c'est la même montagne. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, c'est la même réalité qui est là derrière. Et ça ne dépend pas que notre regard. Alors, les saints nous valent des grâces incroyables. Communion à travers les mondes par l'unité de la charité. Communion aussi avec les âmes qui souffrent au purgatoire pour nous, hein, où on peut prier, offrir, notamment offrir le saint sacrifice de la messe qui vient, Sainte Marie-Madeleine Pazzi. Voyez, à chaque Eucharistie, quand le prêtre levait l'hostie, les âmes sortir du purgatoire et monter au ciel. Alors, aujourd'hui, c'est pas mal. Dieu lui donnait ce regard sur l'invisible. Et vous, Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire, donne à des saints, à des amis de Dieu, à des personnes particulières, des grâces, pour nous faire comprendre à nous ce qui se passe, pour venir au secours de notre foi défaillante, notre foi suspicieuse, notre foi craintive, comme ça. Alors ce qui est extraordinaire dans cette mystérieuse communion des saints, c'est que quand quelqu'un reçoit une grâce, elle m'appartient aussi. Il y a une sorte de réjouissance, de joie profonde des grâces des uns et des autres. C'est que la grâce de l'un appartient aux autres. Le cadeau de l'un appartient à l'autre. Il n'y a pas de jalousie possible dans la Sainte Église de Dieu. Parce qu'on est quelque part membre et destinataire de la grâce des uns et des autres. Une communion extraordinaire, vraiment, où on est véritablement dans la souffrance, comme dans la joie, propriétaire tous ensemble des charismes qui sont donnés à l'un. Parce que les charismes qui sont donnés à l'un ne sont pas là pour son bien à lui seulement, ils sont là au service de la communauté tout entière. Il faut se réjouir de tout ce qui a été donné. Mais cette communion des saints dans l'Église n'est pas seulement une communion à travers les différents mondes qui sont là, elle est une communion dans l'histoire et dans le temps aussi. Il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, on reçoit une grâce parce qu'il y a 500 ans, une grand-maman est allée laver un linge au torrent par le froid de l'hiver en offrant ça pour le salut d'une âme. Cette communion dans le temps, elle est là. Pour Dieu, le temps n'existe pas, voyez-vous. Il embrasse tout dans son amour d'un seul regard d'éternité. Tout est dans l'éternel présent de la charité de Dieu. Le temps n'existe pas. On se porte les uns les autres à travers le temps. Il y a une dame qui était la mère spirituelle de Saint Jean-Eudes, Marie des Vallées, et Jésus lui dit, elle a vécu des choses assez extraordinaires du point de vue mystique et tout ça, d'une vie de nuit de l'esprit aussi, et Jésus lui dira, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour porter le monde dans ton temps et dans la fin des temps. Ce que tu vis là, tu le portes pour la fin des temps, pour les derniers combats, les combats qui vont précéder la venue en gloire de Jésus. C'est extraordinaire cette communion à la fois dans la verticalité de l'Église, entre le ciel et la terre, mais cette communion horizontale aussi, aujourd'hui, et cette communion en profondeur, je dirais, dans le temps. C'est tridimensionnel, hein, même quadridimensionnel, puisqu'il y a le Père qui englobe tout ça dans son éternel amour et éternel présent. Il faut élargir notre cœur et notre sens de l'Église à cette communion qui embrasse tout. Du coup, les moindres mouvements changent le monde. Chaque fois qu'un homme produit un acte libre, il projette sa personnalité dans l'infini, dit l'Éternel à la journée. Chaque fois que je pose un acte libre, je mets en branle l'infini, je mets en branle l'éternel. Je permets à l'univers entier d'être aspiré vers Dieu. Mon acte libre a un poids extraordinaire. C'est un jour, sainte Faustine Kowalska, la voyante du Sacré-Cœur de Jésus, l'apôtre de la miséricorde, était là, puis elle était dans son home, enfin dans son sanatorium, et puis elle faisait du crochet. Puis elle dit, « Oh Jésus, je te demande de sauver une âme par point de crochet que je vais faire. » Oh Jésus dit, « Là, tu me demandes un peu beaucoup quand même. À toi, c'est quand même facile de donner beaucoup que de donner peu. » Jésus dit, « T'as raison, ça c'est un point de gagner. À moi, il est plus facile de donner beaucoup que de donner peu. » Mais quand même, il faut un sacrifice. Petit sacrifice quand même pour ça. Alors Faustine dit, je peux rien faire d'autre que faire du crochet. Je suis tellement mal et handicapé. Alors je t'offre mon obéissance à faire ce que je peux faire. Mon petit point de crochet. Alors Jésus dit, accordé, c'est bon. Accordé. Et à Catherine de Sienne, un jour, elle devait faire quelque chose qui lui déplaisait. Je ne sais pas à quel point ça lui déplaisait, mais ça lui déplaisait. Puis elle dit, oh Jésus, pour ce sacrifice que je fais là, tu pourrais quand même sauver 3 âmes. Et Jésus dit, 3 000. Dieu démultiplie complètement. Démultiplie complètement. On est dans une autre perspective, voyez-vous, cette charité infinie. Canal Journal appelle ça l'effet du microscope. Il y a un petit rien du tout au fond, puis quand on multiplie avec le... Ça a grandi 500 000 fois, ou 500 millions de fois, ou 500 milliards de fois, ça grandit à la dimension du cœur de Dieu, voyez-vous. C'est ça, notre petit acte de liberté et d'amour qui est posé va se répercuter partout, dans les temps, dans l'histoire, dans le ciel et dans le purgatoire. Comment rentrer dans la miséricorde? On va prier tout particulièrement pour celles et ceux qui nous ont précédés, marqué du signe de la foi. Première chose, c'est le regard sur la mort que l'on peut poser. Voyez-vous, il y a un regard radicalement différent que l'on va poser, puisque les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Comme disait Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Voilà l'acte de foi que nous posons. Ceux qui rentrent dans la vie, comme dit Thérèse, participent à cette gloire de Dieu. Alors il y a une chose qui est très importante à dire là, on ne sait pas où ils sont. C'est un peu gênant que beaucoup de prêtres aujourd'hui canonisent immédiatement toutes les personnes qui décèdent. Immédiatement, elles sont au ciel. Ça, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas, il y a un mystère de ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est espérer pour que tous soient sauvés. Et on va prier pour que tous soient sauvés. Ça, c'est certain. Maintenant, où elles sont, c'est le secret du cœur que Dieu seul pénètre. On espère qu'elles soient au ciel, mais peut-être encore dans cette incroyable et mystérieuse invention de la miséricorde de Dieu qu'est le purgatoire, où elles peuvent avoir refusé Dieu pour l'éternité. Ce qu'on sait, dans la certitude de la foi, elles seront là où elles auront voulu être et... dans le plan de l'infinie justice de Dieu, ajustement de Dieu, eh bien, elles ont la place qui était assignée dans le respect de leur liberté. Voilà. Et donc, que le plan d'amour de Dieu se déroule de toute façon et que tout concourt au bien et à la gloire de Dieu. Même pour les âmes qui refuseront définitivement et éternellement l'amour, choisissant d'être en enfer. L'enfer est encore une invention de la miséricorde de Dieu. Voyez-vous, parce que pour l'âme qui refuse de rentrer dans l'amour de Dieu, qui refuse d'aimer Dieu, qui refuse de se laisser aimer par Dieu, Imaginez-vous ce que cela veut dire, d'être collé au bon Dieu toute l'éternité, alors que je ne peux pas le blairer. Déjà, nous, quand on a quelqu'un qu'on n'aime pas trop, qui est à côté de nous, ça donne des frissons. Hein, des fois, je vous ai remarqué ça. C'est ça. On se sent un petit peu mal à l'aise et il y a comme une tentation de fuite qui nous habite. Hein, comment ça? Comme ça. Hein. L'enfer, Dieu a permis mystérieusement l'enfer pour que les âmes qui ne voulaient pas se laisser aimer par lui et qui ne voulaient pas l'aimer en retour soient éloignées de lui et ne souffrent pas d'une souffrance bien plus grande encore, qui est de supporter la présence de Dieu alors que je ne veux pas l'aimer, que je ne veux pas me laisser aimer. Ça paraît fou, c'est vrai. Ça paraît fou. Deux amours ont fait deux cités, dit saint Augustin. L'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi fait le royaume des cieux. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fait le royaume de Satan. Je peux m'aimer à ce point, me préférer à ce point à Dieu, que je refuse de me laisser aimer par lui, de l'aimer en retour. Voilà, et là je suis dans l'enfermement sur moi-même, l'enfermement sur moi-même. Et je le serai comme ça, dans cette préférence éternelle de moi à Dieu. Si j'étais en présence de Dieu, la souffrance serait encore beaucoup plus grande que d'être éloigné de lui, avec tout ce que l'implique aussi, c'est vrai, de souffrance et de blessure, que d'être éloigné de Dieu, c'est pas pour rire. Mais la souffrance est moindre que de supporter le flot infini d'amour que je refuse, de me battre contre l'amour. C'est terrible se battre contre l'amour qui déferle. Sur la terre, on voit des gens, des fois, qui se battent contre l'amour qui déferle, qui se battent contre la miséricorde qui veut les envahir, et elles refusent. Alors, imaginez-vous, on était avec les jeunes, quand on est parti en pèlerinage à Rome, dans la Rome, on s'arrêtait au bord de la mer pour bénir le Seigneur et contempler les beautés de sa création. Il trouve que cette mer qui était là était assez agitée. On s'est trouvé juste à côté. Il y avait des vagues déferlantes qui arrivaient avec une puissance assez extraordinaire. On était tous émerveillés de voir ça, mais certains ont fait l'expérience d'être rattrapés par la vague déferlante. Ça fait un peu drôle quand même. Enfin, il y avait des cris qui signifiaient que une certaine peur envahissait le cœur de la personne. On voyait la puissance de ça, mais vouloir résister à ça, impossible, impossible. L'amour qui déferle dans le cœur, l'amour qui sort du sein trinitaire et à laquelle on veut résister, on se fait mal, on se fait très mal, on se fait très mal. Et il n'y a que l'enfermement total. Voyez-vous, savoir que tout est pris et saisi dans cet ajustement à l'œuvre de Dieu. Voilà, ça c'est le premier acte. Et Saint-Augustin disait, à toi qui pleures tes morts, pose-toi la question pourquoi tu les pleures. Parce que l'amour vrai, c'est pas l'amour qui prend pour soi, c'est pas l'amour possessif. Je t'aime pour moi, c'est l'amour qui donne et qui veut le bonheur de l'autre. Ça c'est l'amour vrai. L'amour vrai, c'est celui qui se réjouit de la joie de l'autre. Or, quelle joie plus grande peut-on avoir de savoir que pour ceux qui nous ont quittés, ils sont dans cette main de Dieu, là où Dieu les a voulu et dans cette contemplation. Réjouis-toi de la joie de celui qui t'a quitté. Quitte ton regard possessif, quitte ton regard renfermé sur toi et sur ton désir de voir le manque que produit la personne en toi, qui est réel et qui est douloureux, bien sûr, hein, qui est réel et qui est douloureux. Saint Augustin ne nie pas cela, mais en disant, sors de ça pour entrer dans la joie de ton frère, de ta sœur, de ton parent, qui est là. Rentre dans la joie. Tous les pères de l'Église font des sermons là-dessus. Il y a saint Ambroise, il y a saint Jean Chrysostome, il y a toute une équipe qui se prononce là-dessus. Saint Bernard aussi, plus tard, parlera de cette mystérieuse communion des saints, comme ça. Et tous diront la même chose. Le chrétien ne peut pas être devant la mort comme les païens. Il y a vraiment une radicale nouveauté qu'apporte notre foi chrétienne, la certitude que la mort n'a pas le dernier mot. Au contraire, c'est la vie qui triomphe, c'est la vie qui gagne. Saint Jean Chrysostome, par exemple, cite l'exemple de la femme des Maccabées, des enfants Maccabées qui vont mourir pour être fidèles au Christ et de ne pas trahir la loi du Christ. Elle dit, mais regardez cette femme, elle n'est pas inhumaine, elle n'est pas violente, elle n'en veut pas ses enfants, et pourtant elle les encourage dans la foi à rester fidèle au Christ. Elle accepte qu'il soit torturé devant ses yeux, alors qu'elle va le vivre elle-même après, ce martyr, parce qu'elle sait, elle sait que la résurrection sera là. Et c'est un des premiers textes très très clairs de l'Ancien Testament, hein, c'est deux siècles avant Jésus-Christ, les Maccabées. Là est proclamé déjà sérieusement la foi en la résurrection. Hein. Donc il y a ce premier regard qui est là, un regard de joie. La communion des saints, nous dit saint Bernard, c'est la joie, c'est la joie. Le 1er novembre, c'est la joie, voyez-vous, le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est l'univers, l'humanité rassemblée dans le Christ, louant Dieu et vivant l'adoration et la gloire de Dieu. C'est ça. Et nous sommes introduits dans ce mystère par l'Église, dans la communion des saints. Nous sommes participants, recevant les grâces de celles et ceux qui adorent Dieu au ciel. C'est donc une fête de la joie. On ne le voit pas comme ça. Et voyez combien le paganisme, quelque part, a rentré, ou le regard humain, trop humain, a pénétré notre religion, a pénétré notre Église, qui fait que on le voit comme un jour de tristesse et d'accablement, comme un jour gris, comme ça. On va sur les tombes avec un poids qui nous pèse comme ça, et on ne va pas avec ce regard d'espérance, avec cette attitude de l'espérance, cette attitude du ciel, cette attitude du regard de Dieu sur cette réalité, sur le triomphe du Christ, sur la mort et le péché. Voilà, on ne va pas avec ce regard-là. Et là, il y a un renversement profond à faire. Ce qui a frappé les païens, c'est justement, au début du christianisme, c'est de voir que les chrétiens avaient une attitude complètement différente à l'égard de la mort, à l'égard de la souffrance. Une attitude qui n'était pas celle du monde, mais vraiment pas celle du monde. Comment peuvent-ils aller se faire manger par les lions en chantant Alléluia et gloire à Dieu? Ou ils sont complètement barges, ils sont tombés sur la tête, ils ont pété les plombs, ou alors ils ont un secret. Et ils ont un secret. Le secret, c'est le Christ vivant avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Ma grâce vous sera donnée, ma puissance se déploie dans votre faiblesse. Et vous rentrez dans la vie. Saint Étienne, le premier qui après le Christ vivra cela, verra les cieux ouverts, les anges monter et descendre devant la face de la Trinité. Dieu lui donnera cette vision pour chacune et chacun d'entre nous, pour montrer que c'est vrai ce qui s'est produit dans le Christ, que c'est authentiquement vrai, qu'on peut y croire, qu'on peut accorder notre foi entière à cela. Et que ce qu'a vu Saint Étienne, les cieux ouverts, les anges de Dieu, et qu'il allait rentrer là-dedans avec un visage de lumière, était véritablement ce qui nous est promis à chacune et chacun d'entre nous. Demandons à Dieu cette grâce de voir avec les yeux du Christ le mystère du monde. Et puis, on va demander avec une foi certaine aussi que toutes celles et ceux qui sont encore au purgatoire et qui attendent de pouvoir rentrer dans cette communion parfaite avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, que ces âmes puissent monter le plus vite possible. Alors, vite, vous comprenez, entre guillemets, hein, qu'est-ce que ça veut dire, notre langage est complètement démuni et inadapté à une réalité dont on n'a pas l'expérience. Enfin, on ne peut parler que des choses de l'expérience. Notre foi nous fait dire cela et on le croit sans hésiter, mais le vocabulaire reste imparfait devant cette réalité. On sait en tout cas qu'il y a une souffrance, une attente et qu'il y a une purification qui doit se faire en intensité, en forme dont on ignore un petit peu. Enfin, Dieu nous a ouvert un peu les portes du ciel, puisqu'il y a le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, où on voit un petit peu ce qui se passe, mais de nouveau imagé et proportionné à notre capacité de comprendre. Voilà. Mais on va prier pour eux, on va intercéder, notamment les messes qui vont être célébrées vont pouvoir ouvrir les portes du ciel, faire couler du côté du Christ le surcroît de grâce qu'il faut pour que les âmes puissent monter au ciel comme ça. C'est tout le mystère de l'intercession au cœur de la communion des saints. Moi aussi, je veux un jour rentrer dans cette communion des saints. J'y suis maintenant, mais je vais rentrer dans ce ciel pour lequel je suis fait. Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux être saint. C'est pas facultatif la sainteté, c'est de l'ordre de la vocation baptismale fondamentale. Je veux être saint, je veux rentrer au ciel, je veux me préparer dès aujourd'hui à rentrer au ciel, aller au ciel. Le prêtre qui était là me disait, j'ai fait mon cercueil pour me dire, ben, un jour je mourrai. Alors lui avait fait son propre cercueil, qu'il a mis dans sa chambre, et quand le jardinier a vu ça, il a mis des fleurs dedans, il a fait un bac à fleurs pour le mettre devant la cure. Ma vie, c'est ça. Il avait laissé dans sa chambre à coucher, l'essayant de temps en temps pour voir s'il était toujours à sa taille. Un jour, le jardinier l'a pris, elle a fait un bac à fleurs. Il dit, bon, ben, on verra comment on fera au moment venu. Mais il nous rappelait, à travers cette terre baignée du sang des martyrs, puisque sous les routes qui se traversent la Moscou à la Sibérie, elles ont été faites sur les cadavres, finalement. Enfin, les prisonniers qui l'ont faite, et ils mouraient là, on les enterrait sur la route, comme ça. Donc c'est une longue procession de martyrs qui va jusque là-bas. Et là-bas, il a mis une église, le Saint-Sacrement, le ciel qui est là, le Saint-Sacrement. Il faut que je vive dans cette réalité. Il faut que je me rende compte de la réalité à laquelle je suis appelé. On n'est pas obligé de faire ça, mais on peut se rappeler dans l'espérance de la destinée qui est la nôtre. La destinée qui est la nôtre, c'est cette extraordinaire et admirable communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans l'Église, et que cette communion, rien ni personne ne pourra nous l'arracher, ne pourra nous en séparer, car elle est plus forte que tout, puis c'est l'Esprit Saint qui la scelle dans la charité. Amen.